Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce nouveau rendez-vous de l'émission Au Bon Soin, l'émission du magazine Sané. On est très content de vous retrouver pour cette deuxième émission en compagnie de Morvana, qui est naturopathe holistique et aussi formatrice en naturopathie et qui nous vient de Figeac. Bonjour Morvana, comment vas-tu ?
Bah écoute, ça va très bien, je suis ravie de cette invitation, ça me fait très plaisir.
Première fois à la radio ?
Oui.
Ouais. Du coup, tu as fait bonne route ?
Oui, je connais bien la route.
D'accord.
Puis okay. J'en ai profité pour aller faire coucou à des amis dans le coin. Et, bon, bah, et ben voilà.
Parfait. Dis-moi, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ton métier ? Donc, tu es naturopathe holistique. Alors, je pense que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est. Alors, beaucoup savent ce qu'est la naturopathie, plus ou moins. Mais le côté holistique.
Oui. Je vais aussi clarifier aussi ce que c'est que naturopathe, parce que c'est vrai que quand je rencontre des gens et qu'ils me demandent ce que je fais, que je dis que je suis naturopathe, ils ont une vague idée, ouais. Mais ils ne savent pas trop exactement ce que c'est. Et en ce moment, avec l'actualité, l'image de naturopathie a été pas mal, un peu abîmée. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important que des naturopathes communiquent énormément sur leur métier. Donc la naturopathie, je vais d'abord dire ce que ça n'est pas. La naturopathie, c'est surtout pas le travail des médecins. On ne fait absolument pas de diagnostic. On ne traite pas des maladies. On ne traite pas des symptômes. Et on ne fait pas de prescription. Si on remonte à l'histoire de la médecine en Europe et on remonte à Hippocrate, les naturopathes se disent plutôt descendre un petit peu de cette pensée, de cette approche de la santé d'Hippocrate, même si Hippocrate était un médecin grec. Ce que la naturopathie aujourd'hui, ce sont des éducateurs de santé. On étudie avant tout le terrain des personnes. Et nous, tout ce qui nous intéresse, c'est la santé. Qu'est-ce qui fait la santé d'une personne ? Donc, dans l'idéal, on fait de la prévention. Donc, une personne peut venir voir un naturopathe et dire, voilà, j'ai envie de mettre vraiment tous les atouts de mon côté pour avoir une vie en bonne santé globale. Qu'est-ce que je dois faire ? Et le naturopathe va vraiment faire tout un questionnaire pour passer en revue tous les systèmes du corps de la personne, parce qu'on a vraiment une formation sur l'anatomie, la physiologie. Donc on va vraiment passer en revue tous les systèmes de la personne, ses habitudes de vie. Et on va aussi observer les différentes sphères de vie. Donc ça peut être donc la sphère corporelle, mais il y a aussi la sphère émotionnelle, spirituelle, mais pas dans le sens connotation religieuse. Hein. C'est vraiment spirituel. Dans le sens que la personne donne à sa vie, quel est son chemin, où est sa position sur son chemin de vie, etc. Tout ça, ça va énormément jouer en fait, sur la santé globale de la personne. Et on va regarder aussi la sphère mentale, toutes ses croyances, ses blocages, etc. Donc, holistique, parce que en fait, la naturopathie de nature se repose sur cinq grands piliers. Donc, le premier, c'est l'holisme, le fait de prendre la personne dans sa globalité. La personne, elle est le résultat de toutes ses sphères qui sont en résonance les unes avec les autres. Ça va être aussi le causalisme, c'est-à-dire qu'on va toujours chercher la cause de la cause de la cause du déséquilibre chez la personne, plutôt que de s'intéresser qu'aux symptômes. Nous, le symptôme, pour nous, c'est un voyant sur le tableau de bord, et on dit, ok, le corps a un signal, il exprime quelque chose, et on va remonter pour comprendre d'où ça vient. Et ensuite, il y a l'humorisme, et là, ça revient justement à Hippocrate. Pour Hippocrate, voilà, on est parcouru de liquide, et donc ces humeurs, il appelle ça les humeurs, voilà, peuvent être chargées de toxines, etc. Donc l'importance, ça va être aussi de nettoyer donc ces humeurs, ces liquides corporels. Ensuite, l'autre pilier, ça va être l'hygiénisme. Et là, c'est vraiment aussi une base de la naturopathie européenne, c'est vraiment de la simplicité, revenir à l'alimentation, l'hygiène de vie, la respiration, le sommeil, le repos, parce que le sommeil et le repos, ça peut être deux choses différentes. Il y a des gens qui dorment mais qui ne se reposent pas. Mmh. Donc on va vraiment regarder tout ça, l'activité physique, et seulement après, on va regarder ce qu'on peut faire pour aider aussi soutenir les émonctoires. Donc les émonctoires, ça va être des organes du corps qui évacuent les toxines vers la sortie.
Oui, comme le foie, par exemple.
Exactement. Le foie, il fait partie d'un émonctoire qui est vraiment le système digestif. Donc, le foie et les intestins, on peut les mettre ensemble. Et chaque organe émonctoire va aller gérer des toxines différentes. Il y en a, c'est plutôt les cristaux et d'autres, plutôt les cols. Donc, voilà, l'hygiénisme, ça va être vraiment remettre l'équilibre dans le corps avec la simplicité et du bon sens. Et enfin, le vitalisme, ça va être vraiment regarder la vitalité, c'est l'énergie qu'il y a dans le corps, en fait, dans les cellules, dans le corps entier, cette énergie qui fait battre un cœur, etc. Donc, cette vitalité qui est là dans les organes et les systèmes, on va aussi aller l'apprécier, voir à quel niveau elle se situe. Et si elle est trop basse, par exemple, eh ben on va pas aborder une détoxification de la même manière. On va plutôt privilégier remonter la vitalité chez la personne et tout ce qui va être détoxifiant, le faire en douceur. Ça va être vraiment en fonction de la personne. C'est-à-dire que chaque rendez-vous va être unique en fonction de la personne, de sa situation de vie et de tous ses piliers.
D'accord. Donc vraiment dans une approche complètement globale, ça peut être l'environnement aussi, j'imagine ?
Tout à fait. C'est-à-dire que dans une consultation classique, on commence par un questionnaire et on va arriver à ces questions-là. Comment vous sentez-vous dans votre vie en ce moment, au travail, comment ça se passe avec votre famille, votre couple ? Et ça va être des indicateurs aussi. Si la personne vit un stress, elle est épuisée physiquement et nerveusement, on va aller regarder aussi de ce côté-là. Et la personne va se rendre compte, en parlant, qu'il y a une relation et que donc elle va devoir équilibrer pas seulement son corps, mais aussi ses sphères de vie.
Et tout ce stress, ça peut créer des toxines, en fait.
Alors, tout le stress peut être à l'origine de beaucoup de déséquilibres ou alors être un facteur qui va vraiment les aggraver.
D'accord. Ouais.
Donc le stress, c'est assez très important d'éviter d'être dans un stress chronique. L'état de stress, il est naturel dans l'histoire de l'humanité, c'est ce qui nous permet de survivre. Il y a un danger, il y a un état de stress, et là le corps se met en situation soit de fuite ou d'attaque face à cet élément danger. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas une vie très dangereuse, et pour autant...
on s'en sort pas mal.
Voilà, on est dans un certain confort, et pour autant, assis devant son ordinateur sans danger, en face de soi, on peut mettre le corps dans une situation de stress où il se prépare à réagir, à partir en courant ou à se battre, sauf qu'en vrai, il n'y a pas le danger. Et d'être dans ce état de stress constant et chronique, là, ça va créer beaucoup de déséquilibre dans le corps.
Est-ce que c'est dû à une sorte de mémoire que nos cellules auraient gardée des temps anciens où on avait ce côté de survie, en fait ?
Tout à fait. C'est-à-dire que dans toute l'histoire de l'humanité, tout le temps qu'on a passé en nature face à des dangers pour survivre est prépondérant dans l'histoire de l'humanité. Et finalement, le confort, il est arrivé très tard. Donc le temps que le corps s'adapte à ces nouveaux modes de vie, c'est trop court, quoi.
Ouais, bien sûr. Ok. Dis-moi, tu es donc aussi formatrice, c'est ça ? En naturopathie, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
Oui, bien sûr. Donc du coup, l'école qui m'a formée, donc, ça a été une belle synchronicité, cette rencontre. Et quand j'ai vu que c'était une école de naturopathie qui était très holistique, j'ai senti, par rapport à mon parcours, on en reviendra tout à l'heure, que c'était une école qui me correspondait tout à fait. Et donc du coup, j'ai fait toute ma formation avec cette école. Et quand j'arrivais à les périodes de l'examen, donc ma formatrice, qui était directrice de l'antenne locale, devait repartir dans le nord de la France rejoindre sa famille. Et donc du coup, elle dit que la place était libre et j'y ai réfléchi. Je m'étais dit que d'ici là, je me sentirais peut-être légitime quand j'aurais un peu roulé ma bosse. Et puis j'avais tellement envie de transmettre, ça me passionne tellement que c'est un vrai plaisir de pouvoir être dans cette situation de transmission. Ouais. Et donc du coup, j'ai démarré depuis le mois de mars. Je fais partie donc de l'école et donc je suis directrice d'antenne. Et cette antenne qui s'appelait Rhodes Albi, maintenant s'appelle Figeac Albi.
D'accord.
Donc c'est une formation où les élèves en fait peuvent démarrer quand ils le souhaitent. Et donc ils débloquent des modules donc sur environ 30 mois. Il y a 32 modules qui débloquent en ligne. Ils travaillent dessus à leur rythme. Et chaque directeur d'antenne, en fait, c'est un interlocuteur privilégié pour aider, soutenir, conseiller, etc. Et il y a aussi vraiment une communauté sur un groupe de tous les élèves nationaux aussi. Ils peuvent communiquer entre eux. Donc on n'est pas seul dans cette formation. C'est vraiment un accompagnement personnel. Et après, on ajoute aussi des stages en présentiel pour avoir des techniques naturopathiques concrètes. Et donc là, les élèves se déplacent sur l'antenne, donc soit sur Figeac, soit sur Albi, pour venir découvrir les techniques naturopathiques en concret, plutôt que juste en module PDF.
D'accord. Du coup, est-ce que tu as un petit conseil, peut-être, pour nos auditeurs quotidiens, ou pour se sentir mieux, ou faire attention à soi, ou prendre soin de soi ?
Je dirais que la base, c'est de reprendre la responsabilité de sa santé. Le confort qu'on a eu, les avancées qu'on a eues avec la sécurité sociale, qui est formidable, qui a permis à tout le monde d'accéder à la santé, il y a eu aussi un contre-coup. Peut-être que des gens se sont déresponsabilisés en se disant qu'ils seraient toujours sauvés par un médecin. Mais on voit qu'aujourd'hui, le système de santé est en train de se démanteler et c'est regrettable. Du coup, il faut vraiment que les gens reprennent leurs responsabilités, qui s'observent et qui retrouvent du bon sens et qui écoutent aussi les signaux de leur corps, qui se fassent confiance. Et le corps est c'est incroyable, il est capable lui-même de se réparer, de se régénérer. Donc, voilà, on peut de soi-même s'y intéresser, soit consulter un naturopathe, soit se former à la naturopathie. Mais en conseil, je dirais qu'il faudrait du bon sens au niveau alimentaire, activité physique, hygiène de vie. Voilà, vraiment des choses simples et s'écouter. Ouais.
Une sorte d'équilibre et attracteur de sa guérison, en fait.
Tout à fait. C'est-à-dire que ça, c'est le principe de l'homéostasie. Ouais. C'est-à-dire que le corps de lui-même, il cherche toujours son équilibre. Mais si on lui rajoute toujours des surcharges de toxines et de la fatigue, il va réussir de moins en moins à le retrouver cet équilibre. Et ce point d'équilibre va se décaler de plus en plus et aller vers des problèmes.
Éventuellement des maladies ou des...
Voilà.
Comme ça. D'accord. Alors, dis-nous, on va faire une petite pause musicale. Qu'est-ce que tu as choisi comme musique ?
Je pensais à une musique d'Étienne Dao et qui, pour moi, évoque beaucoup le chemin de vie et synchronicité. Et voilà, moi, je trouve que c'est la musique derrière, elle me transporte un peu. Donc, j'avais envie de partager ça avec les auditeurs.
Eh ben, c'est parfait. On se retrouve juste après.
Il est des rendez-vous, pas de coïncidence. Aller vers son destin, l'amour au creux des mains, la démarche paisible. Porter au fond de soi l'intuition qui flamboie, l'aventure belle et pure. Celle qui nous révèle, superbe et enfantin, au plus profond de l'âme. Portée par l'allégresse et la douceur de vivre, de l'été qui commence. La rumeur de Paris, comme une symphonie, comme la mer qui balance. J'arrive au rendez-vous dans l'épaisse fumée. Le monde me bouscule. Réfugié dans un coin et observant de loin la foule qui ondule. Mais le choc aveuglant, sans prévenir, arrive. Je m'avance et je vois que tu viens comme moi d'une planète invisible où la pudeur du cœur impose le respect, la confiance sereine. Moi, et plus je m'aperçois que lentement je m'ouvre, et plus je m'ouvre à toi, et plus je m'aperçois que lentement tu t'ouvres. Se trouve. Il fut le chemin, les mirages nombreux, avant que l'on se trouve. Ce n'est pas le hasard, c'est notre rendez-vous, pas une coïncidence.
On se retrouve donc pour l'émission Au bon soin du magazine Sané à CFM Villefranche avec Morvana qui est naturopathe holistique. Ben, merci beaucoup pour ce partage de chansons, c'était très sympa.
Non, ben, j'espère que les gens ont apprécié, sauf ceux qui détestent. Mais...
Non, mais après, je trouve que ça allait très bien en fait, avec le thème de l'émission et puis ta façon de voir les choses aussi.
Oui.
En parlant de ça, tu me disais tout à l'heure que tu avais dans ton parcours de vie, à un moment donné, approché le chamanisme et en fait, comment ça s'est passé exactement? Dis-moi.
Alors, pour revenir à la genèse, je suis née dans une famille hyper, j'allais dire cartésienne, mais même le mot cartésien, en fait, il serait dénaturé parce que Descartes était croyant. Mais pour dire plutôt un milieu matérialiste, vraiment, qui repose tout sur la science et tout ce qui n'est pas expliqué par la science n'existe pas. Donc, du coup, je crois que je suis arrivée au monde en me disant « mais c'est pas possible, ça ne me correspond pas ». Et je me suis dit, je me posais déjà des questions comme ça vers 4-5 ans, en me disant, voilà, je suis une conscience, j'habite un corps et je vis une expérience de vie. À cette époque, dans cette famille, je me posais 1000 questions et avec mes mots de cet âge-là, j'ai dû essayer de poser des questions à mes parents. Et les réponses qui m'étaient venues, c'était que j'étais là par pur hasard et que... et en plus, ça revient à Dao, il n'y a pas de hasard. Donc, la vie n'est qu'un pur hasard, tu es né là et il n'y a rien avant, il n'y a rien après. Alors là, bon, je me dis, c'est pas possible. Pour moi, il n'y a rien qui vient de rien et il n'y a rien qui devient rien. Et donc, j'ai avancé comme ça sur mon chemin de vie jusqu'à ce que, en sixième, une prof de maths me dise « Surtout, il faut bien aérer ce que tu écris sur ta page. Aère bien, plus c'est clair sur le papier, c'est clair pour l'esprit. » Et quand j'ai entendu ce mot « esprit » venir pour moi d'une scientifique, c'est une porte qui s'est ouverte. Je me suis dit « C'est possible, on peut relier. » la science, en laquelle j'ai beaucoup de... Je suis passionnée par la science et en même temps, il y avait cette part d'esprit qui, moi, m'appelait. Et je me suis dit, il y a forcément un lien entre les deux. Et l'un n'annule pas l'autre. Donc déjà, ça a été déjà une ouverture. Ensuite, j'ai continué mon bonhomme de chemin. Et comme je me dis toujours que j'attendrai plus tard, je saurai des choses ou quelque chose va se passer. Mais en attendant, je fais ma vie d'enfant puis d'ado et je verrai. Et jusqu'à ce qu'après, je trouve un autre prof qui me dit, mais... Alors que j'ai l'impression qu'il ne faisait pas attention à moi en cours, mais c'était mon prof principal. Il me prend entre quatre yeux, il me dit « Morvana, on dirait que tu attends quelque chose. Qu'est-ce que tu attends ?» Et ça m'a complètement remué. Je me dis « Il me parle vraiment, mais à mon âme. » Ouais. Là, ce n'était pas l'élève. Et donc là, il y a des choses aussi qui ont encore bougé. Et ensuite, de se dire qu'il n'y a rien avant, rien après, c'était assez angoissant. Et j'ai trouvé beaucoup d'apaisement après avec d'abord le bouddhisme. J'ai rencontré des moines et moniales qui ont changé complètement ma vie. C'est des disciples du maître Thich Nhat Hanh. Donc j'invite vraiment les auditeurs à découvrir les écrits de Thich Nhat Hanh. C'est très abordable, c'est très bien. Et donc la pensée de Bouddha est très bien expliquée. Et d'avoir lu Thich Nhat Hanh, il y a des choses qui ont commencé à se transformer chez moi. Le regard sur le monde, sur la vie, sur la mort aussi. Et donc, du coup, j'ai eu énormément d'apaisement et d'avoir pratiqué avec eux la méditation et la relaxation, ça a été fondamental. Donc, j'ai continué mon chemin de vie jusqu'à ce que je fasse la rencontre d'une personne qui m'a dit, voilà, moi, je suis clairvoyante, tu vas peut-être me prendre pour une folle. Je dis, non, vas-y, je la laisse s'exprimer. Et elle a fini par me dire, mais toi, en fait, dans une autre vie, tu as été chamane. Je te vois vieille femme, chamane entourée de chevaux sauvages. Et là, quand elle me dit ça, il y a quelque chose, une boule qui monte et je me mets à éclater en sanglots. Et là, je suis encore émue quand je t'en parle. Mais du coup, ça m'a parlé au très fond de moi. Et en plus, j'avais sur moi un carnet créatif que j'ouvre devant elle et je lui montre. J'avais dessiné un cheval sauvage et il y avait marqué là-dessus « Animal totem ».
Ouais.
Je dis « Ce que tu me dis, là, ça me parle. »
Tu t'es trouvée, quoi.
Ouais, c'était encore une grande porte là, oui. Qui s'est ouverte, mais vraiment en fracas. Oui. Et à partir de là, je n'ai fait que entendre parler de chamanisme et d'avoir des rencontres qui ont ponctué mon chemin. Mais c'était un warning quoi, qui me disait « vas-y, vas-y, vas-y ». Et ce que j'ai fait d'abord, c'est que j'ai mené une espèce d'enquête pour comprendre chez toutes ces personnes-là à partir de quand elles avaient ouvert leurs capacités. Enfin, ça m'intriguait beaucoup, ce ressenti qui était très ouvert. Je pensais que moi, je ne ressentais rien et qu'ils étaient capables de choses. Et j'essayais de comprendre comment ça s'était ouvert chez les gens et qu'il y avait souvent quelque chose qui venait ponctuer leur vie où il y a quelque chose qui lâche et il y a quelque chose qui s'ouvre. Et après, je me suis dit, bon, j'ai envie de découvrir un peu plus concrètement avec des stages. Et donc, j'ai rencontré Ghislaine Duboc, qui est une chamane et psycho-chamane. En fait, elle est psychologue à la base et aussi sexologue, je crois. Et donc, je l'ai rencontré parce que j'avais créé des retraites zen et créatives pour des femmes qui ont besoin vraiment de couper avec le quotidien pour se mettre à créer, parce que j'ai eu une période de ma vie très créative et donc j'ai fait des retraites comme ça. Et donc, c'était sur son lieu d'accueil de retraite, etc. Donc, je l'ai rencontrée, j'ai fait un stage avec elle et j'ai pas exposé ma problématique, mais à la fin du stage, elle m'a dit « c'est pas moi ton maître ». Et en fait, elle répondait à ma problématique sous-jacente qu'elle a ressentie, donc je trouvais ça assez phénoménal. Et en faisant son stage, en fait, je me suis aperçue que quand je fermais les yeux, mon ressenti, il était là. Il fallait juste que je ferme les yeux pour couper avec le mental. Donc ça, c'est une trame aussi chez moi. C'est qu'est-ce qu'il faut faire avec ce mental qui prend toute la place, surtout quand on est un occidental. Le mental, il est prépondérant. Et donc, d'ailleurs, la démarche de Ghislaine, c'est écouter l'Indien. Comme si en soi, on avait tous l'Indien, celui qui est plutôt indigène sauvage et qui est vraiment relié connecté, à ce ressenti. Ouais. Et ensuite, après, j'ai rencontré une autre personne qui a été celle qui m'a initiée en stage, donc, qui s'appelle Katou, qui a son site, c'est l'Arbre Bleu France. Et donc, j'ai fait mes stages avec elle. Et c'est vrai que le premier week-end, on faisait tellement, tellement, tellement de voyages sur voyage sur voyage, que le mental, il va faire un tour. Il fait, bon, allez, c'est bon. Moi, je laisse tomber. On n'a pas besoin de moi. Et il y a plein de choses que j'ai découvertes sur moi, des facettes de moi. Et là, je me dis, c'est quand même un outil incroyable. Donc, j'ai continué tout le cursus. Et donc, c'est vrai que du coup, aujourd'hui, j'ai gardé. Donc, on a aussi fait l'extraction et le recouvrement d'âme. Je ne sais pas si tu as eu des explications là-dessus avec une autre intervenante. Mais en fait, dans l'explication chamanique, c'est que toute problématique ou maladie, problème, arrive d'abord avec un choc émotionnel. D'accord. Donc tout part d'un choc émotionnel et que l'âme, pour se sauvegarder, en fait, il y a une partie comme qui fait une pièce de puzzle qui reste suspendue dans l'espace-temps avec la problématique pour sauvegarder tout le reste. Et que du coup, quand il manque cette pièce de puzzle, ça fait une faille et que dans cette faille, il y aurait des choses autour qui ont besoin de notre énergie, qui s'immiscent et qui viennent de plus en plus se concrétiser dans la matière et créer la maladie. Donc ça, c'est l'explication chamanique des maladies, donc ça appartient à cette pensée. Mais finalement, je m'aperçois qu'en naturopathie, on fonctionne pareil. Oui. On va souvent aller chercher la cause émotionnelle. Donc, c'est encore un pont entre ces pratiques que j'ai réalisées plus tard. Donc, du coup, ce que j'utilise surtout, c'est les voyages au tambour. Donc, ça, je le propose aussi en cabinet, justement, cet outil pour vraiment faire lâcher le mental. Donc, le voyage au tambour, c'est... Les percussions, en fait, viennent empêcher le cerveau de se mettre en onde bêta, qui est vraiment l'état de conscience ordinaire, qui est celui de la logique, de la résolution de problèmes, et aussi du stress quand c'est encore plus poussé. Et il y a d'autres formes d'ondes que le cerveau génère, sur lesquelles il s'accorde, et donc qui vont nous mettre dans un état de plus en plus profond, de détente, etc. Et donc là, il y a une autre part de soi qui reçoit l'information et qui comprend des choses autrement, en fait.
Donc en fait, ce que tu nous dis, c'est vraiment une approche globale entre le côté naturopathe, le côté chaman, ou chamanisme, parce que je ne sais pas, il y a plusieurs grades, c'est ça, pour arriver vraiment au statut de chaman.
Alors, j'ai énormément de respect pour les peuples racines, et en fait, le chamanisme prend son origine vraiment au début de l'humanité, à partir du moment, parce qu'on a retrouvé des traces avec des objets propres aux premiers hommes, comme des bourses médecine, des plantes. Quand on voit aussi les peintures rupestres, c'est un signe qu'il y avait déjà une forme de pratique qui ressemble au chamanisme actuel dans les peuples racines. Donc en fait, pour moi, c'est vraiment le point de départ, la naissance de la médecine et de la spiritualité qui étaient unies en fait à l'époque. Et ensuite, L'Occident a un peu coupé avec ça, avec cette reliance au grand tout, à la nature, à l'aspect esprit. Donc, au fil de notre histoire, on a eu les religions monothéistes, alors qu'en fait, à la base, le message de Jésus n'est pas du tout contre d'autres pratiques que la sienne. Il prenait vraiment les païens comme ses frères, il accueillait tout le monde. Mais c'est plutôt la religion gérée par les hommes, une patriarchie qui a coupé avec des traditions ancestrales et qui les a diabolisées. Mais ce n'est pas ce qui a fait le plus de mal au chamanisme. Parce qu'après, il y a aussi le communisme où faire du chamanisme en Mongolie, etc., c'était de plus en plus caché, etc. C'était menacé de mort. Mais ensuite, il y a eu le capitalisme finalement, qui est venu vraiment défaire en fait ce chamanisme encore plus, parce que là, même les chamans maintenant, ils sont plutôt la tête sur leur écran à jouer à Candy Crush plutôt que d'être dans leur pratique et d'être reliés vraiment à l'invisible, etc. Et donc les peuples racines continuent, ont gardé ça quand même, et nous, on s'en est coupé. Et donc je trouve dommage de pas se relier à notre propre histoire aussi. En fait, il y avait déjà des pratiques comme ça en Europe. Et plutôt que d'aller vraiment faire du copier-coller de ce que font des peuples racines qui ne sont pas de notre culture, c'est de l'appropriation culturelle. Mais en même temps, cette forme de pratique chamanique appartient à l'humanité tout entière. Je pense qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de chacun créer sa propre spiritualité et d'en faire un outil, en fait, qui lui appartient.
De se l'approprier, de se l'adapter.
C'est ça.
En plus, toutes ces pratiques chamaniques, en fait... je pense étaient certainement différentes dans la globalité, mais au final se rapprochent. Ça reste quand même quelque chose d'assez global. Mais sur, par exemple, l'Europe, on appelait peut-être pas ça les chamans, on appelait peut-être ça les sorcières à l'époque.
Voilà. Déjà, même les chamans dans tous les peuples racines ne s'appelaient pas chamans. En fait, ça vient chez les Mongols, donc c'est le peuple des Tungus, en fait, c'est des ethnos et des anthropologues, des ethnologues qui sont venus observer donc des cultures dans le monde entier. Et quand ils ont observé un peuple chez les Tungus qui était sautait autour du feu, faisait des chants, des états de transe, ils ont regardé ça curieusement et ils ont emprunté un mot de cette langue. C'était Saman, et on n'est pas trop sûr vraiment de l'étymologie. Ça pourrait être l'être qui est consumé par le feu, celui qui sait, celui qui saute et qui danse. Et donc, du coup, ce mot Saman, c'est devenu le mot chaman. Et du coup, ça a été collé, en fait, de façon générique, comme un terme qui décrit un peu tous les hommes et femmes médecine à travers le monde. Et leur point commun à travers le monde, ça va être ceux qui parlent avec les esprits, qui échangent avec les esprits, qui remettent de l'harmonie et qui restaurent l'équilibre. Donc là, je vois encore un pont avec la naturopathie. Sauf que nous, on ne s'adresse pas à l'esprit, on va aller questionner la personne et le corps. Hein. Et ensuite, c'est ceux qui soignent, qui font des rituels de guérison et qui utilisent des plantes. Donc là encore, l'utilisation des plantes, je le vois aussi comme un pont aussi avec la naturopathie.
D'accord. Donc en fait, tout le monde, au final, a adapté un petit peu le chamanisme ou les samans ou la pratique originelle en fonction de sa culture. Et c'est d'ailleurs le sujet de notre prochain magazine Sané, qui sera sur sorcières et chamans et qui sortira le 10 novembre. Vous pouvez retrouver sur le site magazine-sané.fr. Morvana, dis-moi, est-ce que tu as un site internet où on peut te suivre, une page Facebook?
Oui, alors déjà, en page Facebook, donc c'est Vital Harmonie 46. Donc sinon, vous tapez aussi Morvana Feifan. Et donc mon site, en fait, je l'ai fait sur Wix, donc il a... fait toute une ribambelle de mots comme ça avec Wix au bout. J'ai pas vraiment investi dans un site, mais ça va être aussi Vital Harmonie 46. Et donc, pour ce qui est sinon de l'école de naturopathie, donc ça va être le site formation-naturopathe-synergie-naturopathie.fr. Oui, et donc du coup, pour chaque tiret, c'est tiré du 6. Donc voilà, après, si vous voulez me contacter, ça peut être aussi par mail, vitalharmonie46@gmail.com. Comme ça, je peux vous renseigner soit sur... un sujet qui vous intéresse, que j'aurais évoqué, ou
autre chose, toute autre question.
Voilà, ou en rapport avec l'école, peu importe.
D'accord, merci beaucoup Marvana. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, au bon soin. On vous souhaite une très très belle soirée et à bientôt. Merci Marvana.
Merci.